Et nous voulons avoir un thème beaucoup plus familier. Et puis, si vous avez peur de les oublier, eh bien, qu'est-ce qui peut vous consoler? Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler ces choses. Le Saint-Esprit est notre mémoire. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir non pas une Bible pour y piquer un verset dans les mauvais moments, et de l'ouvrir, on ne sait pas trop où, et de mal tomber. Hein. Vous connaissez tout ce qui a déjà été dit là-dessus. On voudrait être encouragé, on a besoin d'une parole, et puis on ouvre la Bible, hein, et puis on met le doigt en fermant les yeux. Et Judas sortit et se pendit. Vous connaissez ça, hein? Alors, c'est très encourageant. Aujourd'hui, que c'est le jour de suicide, les gens vont dire, ben voilà, la parole fixe, ce que je dois faire. Alors, on s'identifie à un Judas. Alors, comme ça ne marche pas, on se dit, je referme la Bible et je l'ouvre. Puis je mets le doigt. Va et toi fais de même. Alors vous y êtes, comprenez-vous? C'est ça qui est dangereux quand on fait de la Bible un livre pour y piquer un verset. Tandis que quand vous êtes dans une difficulté, eh bien, vous priez, puis vous dites au Seigneur, je me souviens que dans ta parole, tu dis que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Eh bien, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin d'être éclairé sur ce point. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut vous faire? Il peut vous donner à ce moment-là la mémoire d'un verset que vous irez peut-être chercher et trouver dans la Bible, mais un verset qui vous revient en mémoire et qui vous donne la réponse. Alors vous avez une certitude, vous avez une conviction et vous sentez que vous pouvez agir. Pour moi, dans ma vie, c'est ce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu réaliser. Le Seigneur ne m'a jamais trompé. Mais il faut que la parole ne soit plus dans les couvertures du livre, mais que la parole soit en nous. Et alors, cette parole, on ne peut pas se souvenir de tout, mais le Saint-Esprit étant sensible, étant notre mémoire, puisque c'est Jésus qui a dit, le Saint-Esprit vous rappellera les choses que je vous ai dites. Alors, c'est très clair, on a une conviction, c'est la parole de Dieu qui nous a enseigné. Dieu peut nous donner aussi une réponse d'une autre façon, mais je voudrais que vous ayez bien compris l'importance d'avoir la connaissance de cette parole. Et je suis heureux que nous ayons été conduits à lire cette épître aux Thessaloniciens, parce qu'elle nous montre ce qui existait au début, au fond du christianisme, de la propagation du christianisme. Il y avait combien d'années que le Seigneur était mort et qu'il était ressuscité? Une vingtaine d'années seulement. Eh bien, voilà ce que réalisaient déjà ceux qui acceptaient la parole du Seigneur 20 ans après ce grand événement qui allait donner son nom à notre ère, puisque nous sommes dans l'ère dite chrétienne, quoique il semble bien que nous soyons à la fin de cette ère. De sorte que nous avons appris des choses au sujet de ce qu'était une église, une véritable église en Dieu, les rachetés du Seigneur, et qui sont devenus, donc par l'œuvre de Christ, les enfants de Dieu. Alors je reviens juste à ces quelques questions. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de la manière dont Paul et Silas exercèrent leur ministère à Thessalonique? Eh bien, quand on a lu ce chapitre 2, en effet, vous avez bien répondu, nous voyons que
nous devons avoir un certain caractère qui ressemble à qui, à quoi, au caractère de qui? Du Seigneur. Si c'est le Seigneur qui habite en nous, si c'est sa personne qui est en nous, c'est lui qui regarde par nos yeux, qui écoute par nos oreilles, qui parle par notre bouche, qui nous inspire, qui aime par notre cœur, qui sert par nos mains, et qui marche par nos pieds. La parole ne nous a pas laissé intacte, mais elle nous a transformés, et vous l'avez cité, nous tous, contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Est-ce qu'il est dit que nous nous transformons? 2 Corinthiens, chapitre 3. Est-ce que c'est nous qui nous transformons? Nous sommes transformés. Je relis ce verset 18, ou verset déjà 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous tous donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand Jésus était au milieu des siens, que reflétait-il? De qui était-il l'image? Du Père, n'est-ce pas? Et ce qu'il aurait voulu que les disciples comprennent, c'est qu'en le regardant lui, il voyait qui? Le Père. Et quand un de ses disciples lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, Jean chapitre 14, et cela nous suffit. Alors, quelle est la réponse de Jésus dans ce chapitre 14 de Jean? Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. À qui est-ce qu'il a dit cela? À Philippe. Et Philippe était l'un des premiers disciples de Jésus. N'est-ce pas? Si vous lisez au chapitre 1er de Jean, Philippe a été amené au Seigneur par qui? Parce que tout se lit dans la parole. Vous vous souvenez qu'il y avait deux disciples de Jean-Baptiste qui ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste, qui regardait Jésus passer et qui dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à deux reprises, il cite Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et alors au verset 37 du chapitre 1er, après ce témoignage de Jean-Baptiste, deux des disciples de Jean l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui cherche ici? Que cherchez-vous? Et lui répondirent, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? C'est donc lui. Vous voudriez savoir où il demeure? Eh bien, venez et voyez. Et ils allèrent, et ils vinrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la sixième. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui est appelé le Christ. Et ils le conduisirent vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et puis, les conversions se font, les unes après les autres, par le témoignage d'hommes qui ont été avec Jésus. Eh bien, si dans cette retraite, vous avez pu avoir un tête-à-tête avec Jésus, vous serez certainement béni, et le Seigneur vous aura parlé. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de la manière dont Paul et Silas exercèrent leur ministère à Thessalonique? Mais elles sont toujours valables, ces leçons. Et je pense que vous avez bien répondu. Être dépendant du Seigneur, être entièrement disponible et ne se proposer que ce que le Seigneur aurait fait. Connaissions-nous l'apôtre Paul sous le jour dont il se dépeint dans ce deuxième chapitre? Bien, je trouve que c'est très précieux parce qu'on a de fausses idées, comme l'a fait remarquer notre ami, sur l'apôtre Paul. C'est pas parce qu'il était un persécuteur, un outrageux et un blasphémateur que vous devez croire qu'il était violent et autoritaire et tout ce que vous voulez. Il a pu être cela. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a rencontré Jésus? Il n'est pas seulement tombé à terre, mais il est mort. Il est mort à cette vie qu'il avait eue. Et quand on rencontre Jésus, on apprend aussi que nous ne pouvons pas continuer de vivre comme autrefois. Alors qu'est-ce qu'il faut? Accepter de mourir. Si vous n'avez pas accepté de mourir à vous-même, vous ne vous en tirerez jamais. La mort de Jésus est devenue notre mort. Si lui est mort pour nos péchés, ce n'est pas pour que moi je puisse continuer de vivre dans le péché. Alors, la mort de Jésus met fin à ma vie propre pour que je puisse vivre maintenant de la vie d'un autre. Qui est ma vie? Qui est votre vie? La vie de Paul, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il en dit lui-même? Christ est ma vie. Philippiens chapitre 1. Voilà. Voilà ce que vous devez retenir. Le Christ était sa vie. Christ était sa vie. Et cela, ça a été reconnu à Thessalonique, aussi bien par des juifs que par des femmes de qualité, que par des païens d'origine grecque. Christ est ma vie. Et puis mourir, disait-il, c'est un gain. N'est-ce pas, c'était pas une tragédie pour lui. Mourir, c'était un gain. Pourtant, il n'attendait pas la mort, il avait attendu le Seigneur, mais il avait eu la révélation qu'il devrait passer par la mort. Alors, il disait, eh bien, je suis persuadé que le Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Et vous savez, cette année, j'ai eu un incident qui m'a beaucoup parlé. Un incident qui est un accident qui est arrivé en France, la veille de Pentecôte. J'étais ici à Montréal et j'ai reçu un téléphone qu'un jeune homme, que je connaissais bien et qui avait étudié jusque-là au Cap Canaveral parce qu'il voulait aller dans l'espace. Il était brillant, il avait 23 ans, converti à l'âge de 18 ans. J'avais fait l'enterrement une année plus tôt de son grand-père à Cannes, qui lui m'avait demandé, il m'avait dit, si je meurs le premier, c'est toi qui fais mon enterrement. J'ai dit, mais je vais mourir avant toi. Mais voilà qu'il est mort, et j'ai dû tenir ma promesse, j'y suis allé. Mais voilà, maintenant, c'était son petit-fils. Et on me téléphone, prie, pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, le petit-fils était mort. Il s'était tué à 6 heures du matin. Mais ce qui était plus grave que sa propre mort, il avait tué deux personnes. Alors, la veuve de celui que j'avais enterré, donc sa grand-mère, me téléphonait, me suppliant de prier. Ce jeune homme était converti. Ce jeune homme était un brillant étudiant. Mais il vient pour se reposer à Pentecôte, à Cannes, et puis, au lieu d'écouter ses parents qui lui disent, tu sais, on voit que tu es très fatigué, tu as tellement étudié, tu as forcé tes nuits, tu n'as pas beaucoup dormi, tu devrais aller coucher. Oh, mais mes amis, les étudiants de Nice m'ont demandé d'aller passer la soirée avec eux. Il n'a pas écouté ses parents, il est allé passer la soirée à Nice. Ce qu'ils ont fait, je n'en sais rien, je ne pense pas qu'ils avaient bu, rien, c'est pas ça, en tout cas pas d'alcool, mais à 6 heures du matin, il a pris le volant de sa voiture, il était en voiture, pour rentrer de Nice à Cannes, c'est pas très long, c'est 32 kilomètres, mais il a loupé la sortie de Cannes, où il devait rentrer chez ses parents, et puis qu'est-ce qu'on fait quand on loupe une sortie sur une autoroute? On doit aller jusqu'à la sortie suivante, hein, puis sortir alors complètement d'autoroute pour reprendre dans l'autre sens, la route qui retourne du côté de Cannes. Qu'est-il arrivé? Il n'avait plus son esprit vraiment très clair. Il a tourné sur la même route pour revenir. Comprenez-vous? Alors, il allait à sens contraire. Et dans un virage, il y avait une auto conduite par deux femmes, une de 35 ans et une de 42, et le choc a été effroyable. Trois morts. Mais vous vous rendez compte, personne ne voulait faire l'enterrement. Alors on me téléphone, bon, aller spécialement là-bas. Alors qu'ils avaient une grande convention chrétienne, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, mais c'est embêtant parce qu'il y avait la police, il y avait toutes sortes de choses, toute une enquête. Bon, alors là, qu'est-ce que je dois faire, mes amis? On me supplie, mais c'est pas parce qu'on me supplie. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais été le répondant pour le père de ce jeune homme. Ici, à Montréal, il avait fait ses études à Sherbrooke, et j'avais été son répondant pour le père du jeune homme. Et j'ai compris, mais c'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de secours. Que ferait Jésus? Alors, si je dois demander à un comité, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez me donner un conseil? Pas ça. Et puis, toutes les agences sont fermées la veille de Pentecôte. Mais quand la conviction m'a été donnée, je n'ai pas cherché un verset dans la Bible en piquant, parce qu'il m'aurait dit ne va pas. Mais ce n'est pas parce qu'il serait dit ne va pas, n'y va pas, que je vais suivre. Il faut que j'ai la conviction dans mon cœur. Il me l'a donnée. Je téléphone. Nice, Montréal ne répond pas, et je reçois immédiatement la réponse de Paris, la centrale de Paris. Je ne sais pas pourquoi. Puis on me dit, oui, on vous arrange, mais c'est un voyage en 72 heures. Il faut aller et revenir, parce que j'étais obligé d'être de retour. suis parti. C'était pas drôle. De se trouver, il y avait foule, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait toute une société, des femmes de qualité aussi, qui étaient là, et puis toute une jeunesse, les amis, les étudiants qui disaient, c'est pas possible, Dieu n'existe pas pour permettre une chose comme ça, parce qu'on l'aimait beaucoup ce jeune homme, c'était un beau jeune homme. Je ne dis pas qu'il n'était pas sauvé, il était sauvé, mais une fois, vous pouvez être converti à 18 ans, mais celui qui avait été le moyen de sa conversion, il n'a pas voulu faire l'enterrement, il est parti. Alors, comment parler à ces gens, à cette mère, qui avait encore trois enfants, à ce père, devant la police, devant tout ce monde qui était là, toutes les autorités. Et pour moi, ce qui était le pire, c'était de penser qu'il y avait deux personnes qui étaient tuées à cause de lui. Je ne savais rien de ces deux personnes. Mais comme c'était deux femmes, elles pouvaient être mères de famille. Une était de Marseille, l'autre, elle était d'Aix-en-Provence. Et quand l'avion descendait, quand je revenais de Montréal, donc Montréal, Paris, j'avais changé, et je descendais sur Nice, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'avais pas pu me préparer. Et j'avais trois messages que je devais apporter dans le salon funéraire, dans l'église, parce que le lendemain c'était à l'église, et puis sur le cimetière. Bien, vous savez, c'est pas drôle. Et l'avion descendait sur Antibes, etc. Bon. J'ai dit, Seigneur, il y a eu du sang versé. Qu'est-ce que je... Et qu'est-ce qu'il me rappelle? Psaume 51. Délivre-moi du sang versé. Oh, que c'est beau. L'Esprit Saint ne voulait pas que j'atterrisse avant que je sois délivré, libéré de cette histoire. Délivre-moi du sang versé. Parce que ce jeune homme, tout chrétien qu'il est, qu'est-ce qu'il avait fait? Rouler à sens inverse, à sens contraire, il a tué. Et c'est triste. Parce qu'alors, ceux qui le connaissaient bien, parce qu'il faisait partie d'une communauté, vous savez ce qu'ils auraient voulu? Il est auprès du Seigneur. Il est auprès du Seigneur. Ils auraient voulu qu'on chante des cantiques. Avec un monde fou qui était rassemblé là, des incrédules, et puis là, nous chanterions des cantiques. C'est merveilleux parce qu'il est auprès du Seigneur. Bien non, chers amis. Le message n'aurait pas passé. Il fallait que je dise à ces très très chrétiens de gens, nous ne chanterons pas, parce que nous ne sommes pas des triomphalistes. Nous sommes dans l'humiliation, nous sommes brisés. Vous comprenez? Et le Seigneur m'avait donné là, au salon funéraire, le psaume 130, vous le connaissez? Le De Profundis, des lieux profonds, nous invoquons, nous étions brisés. Parce que quand vous voyez ce jeune homme qui était grand dans un cercueil, enfin le cercueil était la même grandeur, mais il était tout ratatiné. Aller à 100 contre une auto qui va à 100, ça fait 200. Il ne restait rien. C'était bousillé. Puis voir le père, la mère. Vous croyez qu'être au service du Seigneur, on est glorieux? J'étais dans mes petits souliers. Et j'étais à genoux devant ce cercueil. J'étais une demi-heure sans pouvoir rien dire. Puis après, le Seigneur a donné des profondis. Et nous, j'ai lu ce psaume. Et puis nous avons pu prier, nous humilier. C'était comme une préparation. Pour le lendemain, alors il y avait foule, les gens sur la rue, et des Arabes, il y avait de tout. Parce que son père était un homme qui avait beaucoup d'affaires là. Eh bien, la grâce de Dieu est là. Et il m'a donné de pouvoir convaincre ces braves chrétiens qu'on n'allait pas chanter. Mais quand même, pour leur donner une petite satisfaction, j'ai accepté qu'on lise les paroles du cantique que eux auraient voulu chanter. Alors je les ai lues. Je ne vais pas vous faire l'enterrement que j'ai fait là. Mais ensuite, on allait au cimetière. Hein, puis ça suivait. Puis je me suis dit, au cimetière, il n'y aura pas grand monde. Hein. C'était plein. Je me suis trouvé comme sur le Mont Carmel. Il y avait une foule. Alors, et toujours les parents, hein, et la pauvre mère. Et là, alors, le Seigneur m'a saisi. Et j'ai pu parler. Hein. Le monde entier vit à sens contraire. C'est vrai ou c'est faux? On roule à sens contraire. Le monde entier, nous vivons à sens contraire. Pour s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire demi-tour. Eh bien, je vous promets que ça a marqué. Parce qu'il y a un tas de gens qui sont venus me dire, oh, comme c'est vrai, on n'y avait jamais pensé à ça. Le monde entier vit à sens contraire. Tout est à sens contraire aujourd'hui. Et vous savez, il a employé cette mort pour quelque chose. Mais je vous promets qu'il fallait la grâce de Dieu. Puis le lendemain, ben, je revenais. Puis on a eu le camp par la grâce de Dieu. Mais c'est seulement pour vous dire, l'apôtre Paul, Silas, tous ces gens-là, ils me parlent. Et quand je dois prendre une décision, j'ai des exemples d'hommes qui ont fait ce que Jésus aurait fait. Alors, on ne va pas demander conseil à Pierre, Jacques et Jean qui auraient dit, mais vous êtes fous avec eux, ce que vous avez, vous êtes, vous n'en avez peut-être plus pour longtemps, puis vous faites encore tout cela. Non. Nous sommes appelés à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais quand j'étais devant ces jeunes, je leur ai montré qu'il ne suffisait pas de se convertir et d'être sauvé, mais qu'il fallait qu'on ait une vie à la gloire de Dieu et une mort à la gloire de Dieu. Comprenez-vous? C'est cela qui m'a beaucoup impressionné. Est-ce que notre mort sera à la gloire de Dieu? J'ai dit que nous n'attendions pas la mort, mais si nous devons mourir, je voudrais que ce soit à la gloire de Dieu. Non pas. Et voyez-vous, j'ai eu cette pensée, quand Jésus était fatigué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé, hein. Il a dormi même dans la tempête. Et ce garçon, s'il avait écouté ses parents, et qu'il soit allé se coucher, ça ne serait pas arrivé. Mais les parents, ben, nous sommes jeunes, on a des réserves, mais on ne prend pas le volant à 6h du matin. Quand on a passé la nuit, dans la veille, en pensant, ben, le Seigneur doit nous garder parce qu'on est au Seigneur. Non. Il nous a donné du bon sens. Alors j'ai insisté sur ce fait que nous devions avoir non pas seulement une vie à la gloire de Dieu, mais aussi une mort à la gloire de Dieu. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je m'excuse de vous avoir dit ça, c'est un peu personnel, mais enfin, ça vous montre combien nous devons dépendre, et ça reste dans ces questions. Hein. Ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de la manière dont Paul et Silas exercèrent leur ministère à Thessalonique, comment moi j'ai à exercer mon ministère, que ce soit ici au Québec, ou au Canada, ou en Europe encore. Et ce que nous devons être, comme Paul, qu'est-ce que je pouvais être pour cette maman qui venait de perdre son fils de 23 ans, qui était son confident parce que son mari a tellement à faire qu'il n'avait presque plus de temps pour elle. Alors elle était terriblement attachée à son fils aîné, et elle qui était une croyante pourtant vivante, elle doutait, elle me disait, mais c'est pas possible, Gaston, que Dieu permette des choses comme ça. Il y avait la révolte. Et c'est pas en allant simplement lui donner de l'eau bénite que ça allait la calmer. Comprenez-vous? C'est là que vous sentez que vous n'êtes incapable de dire une seule parole. Il faut que ce soit toi, Seigneur, qui parle. Mais voilà, on est là ensemble. Mais souvenez-vous de cela. Demandez au Seigneur que vous ayez une mort à sa gloire. Où est-ce que je trouve ça, qu'on doit avoir une mort à la gloire de Dieu? C'est toujours dans la Bible. Avec l'apôtre Pierre, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit quand il est ressuscité? Et qu'il l'a restauré après sa terrible chute, quand il lui a dit « Paie mes agneaux, paie mes brebis, etc. » Je vous lis encore ce passage, pour que vous voyez que c'est toute la Bible qui nous enseigne. Au chapitre 21 de Jean, Pierre était avec le disciple que Jésus aimait. Au verset 18, après l'avoir restauré, il lui dit, chapitre 21 de Jean, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudra pas. » Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. C'est beau, hein? Donc, on doit avoir une mort à la gloire de Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Avoir une mort à la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas la mort que nous attendons. Alors, question 3. Si nous sommes conscients d'avoir été appelés par Dieu à son propre royaume et à sa gloire, quelle doit être notre marche ici-bas? Ben, vous l'avez bien souligné, une marche à la gloire de Dieu et une marche dans la sanctification. À quoi attribuez-vous le fait que la prédication de l'Évangile fut reconnue comme étant non des paroles d'hommes, mais comme étant la parole de Dieu? Bien, je dirais que cette parole n'avait pas laissé intact les Thessaloniciens. Elle les avait transformés. Et voyez-vous, la parole de Dieu, quand on la lit, quand on la mange, elle ne nous laisse pas intact. Mais il faut la manger. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai. C'est là qu'on voit qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Elle agit, elle est agissante, elle opère des miracles. Alors la question 5, le caractère des Juifs qui persécutèrent les croyants thessaloniques, était-il meilleur qu'au temps de Jésus? Non, c'était les mêmes. Le cœur de l'homme ne change pas, il ne s'améliore pas. Satan est-il capable d'empêcher un serviteur de Dieu d'accomplir un bon projet? Bien sûr, n'est-ce pas? Mais il faut discerner si ça vient de Satan ou si ça vient de Dieu. Et Paul avait ce discernement, mais là, eh bien, il n'a pas pu s'y rendre. Mais c'est que Dieu voulait qu'il envoie au fond un autre que lui, et ce fut Timothée, et en finale, le diable fait une œuvre qui le trompe, comme il l'est dit. C'était une bénédiction pour Timothée, c'était une bénédiction pour Paul, une bénédiction pour nous. Alors, ne nous affligeons pas si tout n'a pas été comme nous le désirions. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Vous voyez, dans toute l'histoire de Job, Satan est contrôlé par Dieu. Job a été éprouvé, c'est vrai, mais jusque-là, mais pas plus loin. Alors que pensez-vous de la mission de Timothée? Bien, on lui a répondu. C'était une bénédiction pour lui, une bénédiction pour Paul, une bénédiction pour les Thessaloniciens. Et alors, l'avènement du Seigneur est-il pour nous un sujet de joie ou un motif de sanctification? Et un motif de sanctification, bien. Nous voulons espérer que d'ici la fin de la journée, et demain en particulier, ce soit écrit comme un sujet de joie dans votre cœur et que vous osiez en parler. Quant à la sanctification, bien, si j'attends le Seigneur dans l'aujourd'hui de ma vie, je n'irai pas où je ne voudrais être, je ne ferai pas ce que je ne voudrais faire, je ne dirai pas ce que je ne voudrais dire quand Jésus vient, hein, parce qu'il vient d'un instant à l'autre. Alors, il n'y a pas une vérité plus sanctifiante que celle du retour du Seigneur. Quiconque, et quelqu'un l'a cité, 1 Jean chapitre 3, verset 1er, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est le moment de terminer. Je veux espérer que ce moment musical a pu vous détendre un peu et compenser la longueur de l'étude de cet après-midi. Je sais que certains avaient de la peine à avaler, d'écouter l'ensemble des ateliers. C'est toujours un peu long et on risque de se répéter. Je sais que dans beaucoup de milieux, on a supprimé complètement les ateliers à cause de cela. Je ne sais pas ce que je ferai dans l'avenir, mais en tout cas, ce soir, vous allez retourner dans vos chambres, simplement, et puis, vous allez faire votre étude personnelle. Si vous voulez vous occuper des questions, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas y répondre, n'y répondez pas. Mais soyez vrai, ayez un tête-à-tête avec le Seigneur. Pour vous-même. Et posez-vous vous-même des questions au sujet du retour du Seigneur. Puis revenez dans vos ateliers au bout d'une demi-heure et vous partagez. Puis vous viendrez ici. On ne fera pas ce soir de rapport d'atelier pour que vous ne soyez pas submergés. Et je vous donnerai le dernier message de cette soirée. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette musique si belle, pour ce que tu as employé pour nous apporter ces dons merveilleux. Nous sommes sensibles à toutes tes grâces et nous aimons à te bénir pour tout ce que tu es. Maintenant, nous te demandons de garder dans nos cœurs ce qui était nécessaire que nous entendions aujourd'hui et que cette retraite ait une influence sur notre comportement dans la vie de tous les jours. Tu es capable de permettre que cette parole que nous avons essayé de lire, de méditer, de repasser dans nos cœurs, s'inscrive dans notre quotidien et que même ceux qui nous entourent, les plus proches comme les plus éloignés, puissent voir que nous sommes transformés par ta parole, qu'il y a des choses que nous ne dirons plus, des choses que nous ne ferons plus, jamais, des lieux où nous n'irons plus, non pas parce que nous nous plaçons sous la loi, mais parce que nous désirons te plaire à tous égards, pour que quand tu viendras, tu nous trouves où tu veux, faisant ta volonté pour ta seule gloire, en Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et vous garde. Puis nous nous retrouvons ce soir.